Vous écoutez On lit pour vous.
Les masculinistes s'inspirent des trans sans le savoir. Une chronique de Samuel La Rochelle parue le 18 juin 2026 dans le magazine Fugue. Mâchoire reformatée à coups de marteau d'en face. Corps redessiné grâce aux stéroïdes et aux shakes de protéines. Vêtements et autres standards les rapprochant d'un idéal. En cette ère de « looks maxing », soit l'amélioration de soi-même, les masculinistes ne réalisent pas que leur méthode semble s'inspirer d'un groupe qu'ils ont en horreur, les personnes trans. J'imagine déjà les masculinistes préparer des répliques violentes après avoir lu un paragraphe les associant aux trans. Pas surprenant de la part de ces petits loulous fragiles qui ont besoin de se faire dicter comment vivre pour calmer l'anxiété qui les dévore quand vient le temps de penser par eux-mêmes. Occupés à ressembler à des mâles alpha, ces petits gars, de tout âge, ne réalisent pas qu'une immense industrie a été mise en place pour les convaincre de tendre vers un idéal masculin en consommant tel ou tel produit. Ils n'ont pas non plus le recul pour voir les liens entre leur modus operandi et celui des trans. Si vous n'avez pas entendu parler des méthodes farfelues des millions de petits gars sur les réseaux sociaux, suivez le guide. En plus du looks maxing, on parle du gym maxing, chez ceux prônant les multiples séances de gonflettes, les gros muscles, les stéroïdes et les shakes protéinés auxquels même nos amis brillants ont succombé, alors que les scientifiques peuvent contredire leurs vertus en un clin d'œil. Sans oublier le money maxing, qui vise à améliorer salaire, économie et placement afin d'augmenter leurs chances d'être désirables sexuellement. À ce stade-ci, j'entends certaines d'entre vous savourer l'ironie. Après des siècles à faire subir aux femmes une pression folle pour qu'elles détestent leur corps, qu'elles soient happées par l'économie de la haine de soi et qu'elles veuillent correspondre à une image afin de plaire au petit monsieur, ces derniers subissent à leur tour les conséquences des standards de beauté malsains. Mais pendant que les masculinistes tendent vers une masculinité plus affirmée, ne voyez-vous pas une forme d'ironie encore plus frappante? Des millions d'hommes cis posent des gestes quotidiens pour se rapprocher d'une vision plus claire de leur identité de genre. À qui cela vous fait-il penser? D'un côté, les personnes trans font des choix pour vivre en adéquation avec leur genre. Certaines l'expriment dans leur style, vêtements, accessoires, coupe de cheveux, maquillage. Plusieurs prennent des hormones. D'autres ont recours à des chirurgies, retirer ou ajouter les seins, construire un vagin ou un pénis, ajouter des courbes à leur silhouette ou changer les traits de leur visage. D'autre part, les adeptes du look maxing se donnent des petits coups de marteau dans le bas du visage un peu chaque jour dans l'espoir de redéfinir les traits de leur visage. Ils plaquent leur langue contre leur palais pour avoir une mâchoire plus carrée. Ils pratiquent des exercices de gymnastique faciale pour transformer leur regard dans le but d'avoir des yeux de chasseur. Certains font appel à des compléments alimentaires, des stéroïdes ou des injections pour changer leur corps. Sur les réseaux sociaux, ils s'encouragent à manger des croquettes pour hommes. Boy Kibble, dont le seul objectif est alimentaire, sans égard pour le goût et l'esthétique. Sans oublier les influenceurs archi-populaires qui suggèrent de se blanchir les dents avec des moyens dangereux pour les mailles et les gencives. Ou ceux qui expliquent aux petits gars l'intérêt d'avoir des lèvres plus charnues. Vous pouvez rire et passer à un autre appel, mais vous pouvez aussi prendre un pas de recul. Réfléchir à ce qui pousse des millions d'hommes et de garçons à écouter de pareilles âneries. Considérer que les petits monsieur sont en déroute parce qu'ils n'ont pas encore réussi à s'adapter aux tentatives de rééquilibrage des privilèges qui leur donnent l'impression d'être désormais à la remorque de la société. Rappelez-vous qu'on ne leur a jamais appris à exprimer leurs émotions, ni à entretenir des amitiés sincères, qui exige de la vulnérabilité à l'adolescence et à l'âge adulte. Qu'ils cherchent un sentiment d'appartenance, qu'ils ont le sentiment d'avoir trouvé une communauté de bro mascu masque, sans jamais prendre conscience que les têtes dirigeantes de ces communautés s'intéressent surtout à leur portefeuille. Par-dessus le marché, ils ne réalisent pas qu'ils se rapprochent de plus en plus des trans. Et non, je ne suis pas en train d'affirmer que les masculinistes vivent les mêmes souffrances que les personnes trans qui composent avec la dysphorie de genre, les insultes, le rejet, l'incompréhension, les attaques physiques, les viols et les meurtres, simplement parce qu'elles ne suivent pas le même chemin que la majorité et que les membres de cette majorité sont des petits pissous qui ont peur de la différence. Par contre, si je faisais partie des masculinistes, je me garderais une petite gêne quand l'envie leur prend de calomnier les trans, de retirer leurs droits et de travailler à leur effacement. Parce que, non, être né garçon et tout faire pour se transformer en archétype masculin n'est pas plus socialement acceptable qu'une personne trans qui tend vers sa vraie nature. C'était « Les masculinistes s'inspirent des trans sans le savoir », une chronique de Samuel Larochelle parue le 18 juin 2026 dans le magazine Fugue.
L'inaction face au bris de conditions, un danger de plus pour les victimes de violences conjugales. Un texte de Stéphanie Marin, paru le 13 juin 2026 dans Le Devoir. Imaginez cette situation. Une femme dénonce à la police la violence que son conjoint lui fait subir depuis des années. L'homme est d'abord arrêté, puis relâché en attendant son procès. On lui impose une série de conditions à respecter. Ne pas s'approcher de son ex-conjointe, se tenir à bonne distance de sa résidence, ne pas communiquer avec elle. Mais il fait comme si ces conditions n'existaient pas. Il envoie des messages à répétition à cette femme et monte la garde devant chez elle pour la surveiller. Cette dernière porte à nouveau plainte, mais rien n'est fait pour faire cesser les comportements inquiétants de l'homme qui poursuit de plus belle et continue à exercer son contrôle sur cette femme et lui fait craindre le pire. Cet exemple n'est pas fictif. Les organismes qui œuvrent à la protection des femmes ne cessent d'observer de tels cas. C'est troublant, parce qu'un conjoint qui fait des bris de conditions, en fait, il teste le système. S'il n'y a pas de conséquences, il se dit « je peux continuer en toute impunité » et devient plus dangereux, avertit en entrevue Louise Riendeau, co-responsable des dossiers politiques au regroupement des maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. Au Québec, les accusations pour violation de conditions dans un contexte de violence conjugale ont connu une hausse alarmante, selon la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes. Les chiffres obtenus auprès du directeur des poursuites criminelles et pénales, DPCP, permettent de constater que si 4193 chefs d'accusation ont été déposés en 2018, ce total a bondi à 8361 en 2021 et finalement à plus de 11000 en 2025. À noter que ces chiffres n'incluent même pas les accusations de non-respect de conditions portées devant les cours municipales qui traitent beaucoup de causes de violences conjugales. Un important signal d'alerte. L'imposition de conditions de libération à un accusé est le filet de sécurité qui doit protéger sa victime présumée pendant toute la durée des procédures criminelles. Mais si personne ne s'assure de leur respect, le filet se retrouve plein de trous. Notons qu'il est question ici du non-respect de conditions par un accusé avant un procès. Un autre système régit ceux qui sont commis après l'imposition de la peine. Cet aspect de la violence conjugale est moins discuté dans l'espace public que les féminicides. Mais les organismes de défense des droits des femmes mettent en garde depuis un bon moment contre le danger que représentent ces bris de conditions. Car ils signalent la dangerosité d'une personne et surtout le fait qu'elle ne respecte pas le système judiciaire, affirme Mme Riendeau. La Fédération des maisons d'hébergement pour femmes qualifie même le non-respect des conditions de libération de signal d'alerte majeur dans l'évaluation du risque de féminicide. De récents cas médiatisés l'ont d'ailleurs illustré. Des conjoints violents cumulent de nombreuses violations avant qu'ils soient arrêtés ou que l'irréparable, le meurtre d'une femme, ne soit commis. On n'a qu'à penser à Gabi Renaud, cette mère de famille tuée à l'automne 2025 à Saint-Jérôme. Son conjoint, Jonathan Blanchet, accusé de son meurtre, a laissé dans son sillage des signes de danger. Ce multirécidiviste avait été accusé à de nombreuses reprises de non-respect de ses conditions de libération. Des violations parfois banalisées. Plusieurs problèmes ont été relevés par les organismes d'aide qui rapportent que le non-respect de conditions de libération est très fréquent dans les dossiers de violence conjugale. D'ailleurs, bien que violer des conditions de libération soit une infraction criminelle en soi, les victimes présumées qui se rendent au poste de police pour porter plainte peuvent faire face à l'hésitation ou au scepticisme des policiers, rapporte Louise Riendeau. On leur dit parfois qu'elles ne disposent pas d'assez de preuves ou bien d'accumuler plusieurs infractions avant de porter plainte. Certaines se sont fait dire « Rappelle-nous quand ça fera 10 fois », ajoute-t-elle. « C'est troublant », dit Louise Riendeau, parce qu'un conjoint qui fait des bris de conditions, en fait, il teste le système. S'il n'y a pas de conséquences, il se dit « Je peux continuer en toute impunité » et devient plus dangereux. Elle raconte le cas d'une femme qui a dénoncé son ex-conjoint récemment. Il est entré dans la zone interdite, celle établie autour d'elle pour sa protection. La police n'a pas voulu porter sa plainte auprès d'un procureur de la Couronne pour le dépôt d'accusation. La femme rapporte s'être fait dire « Bien, écoute, il ne s'est pas arrêté, il n'a pas essayé de te contacter », relate Mme Riendeau. Pourtant, par ce comportement, l'homme signalait sa présence et le fait qu'il pouvait surveiller ses allées et venues. Selon Mme Riendeau, cette inaction décourage bien des femmes de rapporter les violations commises par leur ex-conjoint. Et puis, demande-t-elle, quel message envoie-t-on aux victimes quand on agit de la sorte? Il s'agit d'un message contre-productif de banalisation de la violence qui fait perdre confiance aux victimes envers le système de justice, répond à ce sujet le rapport « Rebâtir la confiance » commandé à un groupe d'experts par le ministre de la Justice du Québec et rendu public en 2020. Ses auteurs recommandaient d'ailleurs d'accroître la surveillance des conditions de remise en liberté. Ignorer les conditions à répétition. Interrogée à ce sujet, Maître Isabelle Dorion, procureure de la Couronne et coordonnatrice provinciale en matière de violence conjugale au sein du DPCP, rappelle d'abord que, selon le droit en vigueur au Canada, la remise en liberté d'un accusé dans l'attente de son procès est la norme. L'incarcération doit être une exception, car tout accusé est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Mais comment donc quelqu'un peut-il ne pas respecter, à répétition, les conditions qui lui sont imposées et demeurer en liberté? Selon Maître Dorion, il faut enquêter ces bris-là en priorité, mais cela peut prendre du temps. On n'obtient pas les preuves nécessaires en claquant des doigts. Aussi, plutôt que de révoquer la liberté de l'accusé, un juge peut décider d'imposer des conditions plus strictes, comme le port d'un bracelet anti-rapprochement ou une thérapie fermée pour l'accusé, explique-t-elle. Maître Dorion signale aussi une autre difficulté. Les procureurs de la Couronne ne sont pas toujours informés rapidement que des conditions de libération ont été violées. Elle explique. Si l'accusé demeure détenu après avoir été arrêté, le procureur de la Couronne peut s'opposer à sa remise en liberté lorsqu'il comparaît devant le juge. Mais cette occasion ne se présente pas quand l'accusé est emmené au poste de police et aussitôt relâché avec promesse de comparaître ou lorsqu'il reçoit une sommation par la poste. Dans ces deux derniers cas, il n'a qu'à se présenter à la cour à une date ultérieure. Et cela ne lève pas de drapeau rouge pouvant signaler l'urgence de la situation au procureur de la Couronne, explique Maître Dorion. Il y a alors un délai entre le non-respect de conditions et la comparution à la cour, une période lors de laquelle l'accusé peut continuer d'agir de la sorte. Il peut même s'écouler des mois, selon Mme Riendeau. C'est un problème. Des changements législatifs. Un récent changement législatif facilite toutefois la tâche des procureurs de la Couronne qui souhaitent qu'un accusé reste détenu pendant le déroulement des procédures criminelles. Ainsi, depuis 2024, un acte de violence contre un partenaire intime peut opérer un renversement du fardeau de la preuve. Il revient alors à l'accusé de démontrer qu'il devrait être libéré et non pas au procureur de la Couronne de prouver que l'accusé devrait rester détenu. Cette règle vient avec des contraintes. Il faut que la personne ait été condamnée dans le passé pour une infraction avec violence et que l'infraction actuellement reprochée constitue elle aussi un acte violent, ce qui n'est pas toujours le cas des violations de conditions. C'est un enjeu législatif avec le libellé du code criminel auquel les procureurs sont souvent confrontés, souligne Maître Dorion. Mais pour ceux qui s'occupent des dossiers de violence conjugale, il y a des bris de conditions qui ne sont pas de simples bris de conditions. Cela peut être un individu qui veut contrôler la personne. Le contexte est important, affirme-t-elle. Le tribunal a aussi une autre possibilité depuis 2024 dans les dossiers de violence conjugale. Il peut ordonner le suivi dans la communauté, par un agent de probation, d'un accusé remis en liberté en attendant son procès. Mais ici aussi, cette mesure ne fonctionne que si l'accusé comparaît après une détention, pas s'il est arrêté par la police et relâché avec promesse de comparaître. Un autre projet de loi actuellement à l'étude à Ottawa propose de resserrer encore plus le processus de remise en liberté avant procès. S'il est adopté, il restera à voir comment les règles seront appliquées par le système judiciaire. C'était l'inaction face au bris de conditions, un danger de plus pour les victimes de violences conjugales. Un texte de Stéphanie Marin, paru le 13 juin 2026 dans Le Devoir.
L'antidote à l'abus. Un texte de Marie-Hélène Proulx, publié dans l'actualité, édition de juin 2026. En sous-titre, l'approche inédite d'une chercheuse montréalaise empêche des jeunes de plonger dans la toxicomanie. Le Québec tarde pourtant à l'adopter. PreVenture, PreVenture, un programme rattaché au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine qui lutte contre l'abus de substances chez les jeunes, a démontré son efficacité au cours des 20 dernières années par l'intermédiaire de 8 études scientifiques, en plus d'être reconnue par l'UNESCO et l'Organisation mondiale de la santé. Entretien avec celle qui l'a mis au point, la psychologue clinicienne et professeure au département de psychiatrie et d'addictologie de l'Université de Montréal, Patricia Conrod.
Comment fonctionne votre méthode?
Au lieu d'aborder de manière générale les méfaits de l'abus de substances, nos deux ateliers de 90 minutes se concentrent sur 4 traits de personnalité dont j'ai découvert qu'ils étaient associés à une consommation précoce et problématique de drogue et d'alcool. Impulsivité, recherche de sensations fortes, sensibilité à l'anxiété et tendance à cultiver des pensées négatives. Ces séances sont offertes à des jeunes de 12 à 24 ans dans des écoles secondaires ou des organismes communautaires.
En quoi ces profils sont-ils liés aux troubles de dépendance?
Ces caractéristiques, toutes liées au système de récompense du cerveau, sont très répandues parmi la population et ne sont pas problématiques en soi. Par exemple, l'impulsivité, c'est aussi aimer être dans l'action et pouvoir se mobiliser rapidement. Mais en situation de stress, ces traits peuvent s'exacerber et générer des souffrances qui en poussent certains à se tourner vers les drogues et l'alcool. D'autant qu'en Amérique du Nord, ces substances sont faciles d'accès et que la culture encourage leur usage. Nos intervenants apprennent néanmoins aux jeunes qu'ils ont le pouvoir de gérer les pensées et les comportements induits par leur profil de personnalité, tels que l'anxiété ou la soif de sensations fortes. Beaucoup de jeunes sont heureux de constater qu'ils ne sont pas seuls à faire des crises de panique, par exemple. Et on leur montre comment les maîtriser grâce à des stratégies tirées de la thérapie cognitivo-comportementale. On les amène aussi à se fixer des objectifs et à comprendre comment la consommation de substances pour canaliser des émotions peut nuire à leur réalisation. À quel point cette approche a-t-elle un effet? De nombreuses études, notamment celles menées de 2012 à 2018 auprès de 3800 élèves venant de 31 écoles secondaires à Montréal, ont démontré l'efficacité des ateliers, particulièrement chez les jeunes de 12 à 15 ans. Des résultats récents indiquent que le risque de souffrir d'un trouble lié à l'usage de substances était 35 % moins élevé chez ceux qui avaient suivi la formation. Celle-ci contribue aussi à la réduction de troubles de santé mentale, dont l'anxiété et la dépression. Une nouvelle phase de l'enquête effectuée auprès des jeunes Montréalais qui sont devenus adultes depuis permettra de vérifier si les effets positifs perdurent.
Le programme est-il répandu dans le système scolaire québécois?
Très peu, alors qu'en Ontario et en Colombie-Britannique, il est donné plus systématiquement, peut-être parce que la crise des opioïdes y est plus marquée. Au moins 7 autres pays l'ont adopté. Il y a 20 ans, les programmes de prévention en santé mentale étaient bien intégrés dans les écoles québécoises, mais aujourd'hui, ces dernières manquent de ressources et les intervenants passent beaucoup de temps à gérer des crises. Je reste cependant convaincu qu'il y aurait moins de crises si on investissait plus d'énergie dans la prévention. Fin de L'Antidote de l'abus, un texte signé Marie-Hélène Proux, publié dans l'Actualité édition de juin 2026.
Le riz exposerait davantage à l'arsenic que la fonderie Horn, selon une étude payée par Glencore. Un texte de Benoît Valois-Nadeau, paru le 9 juin 2026 dans Le Devoir. L'alimentation serait davantage responsable de la présence d'arsenic chez les habitants de Rouyn-Noranda que la fonderie Horn, avance une étude financée par Glencore dévoilée mardi le 9 juin 2026. Une experte consultée par Le Devoir remet toutefois en cause les choix méthodologiques du rapport. L'étude de la firme Intrinsic, qui se base sur un programme volontaire de biosurveillance visant les employés de Glencore et leurs proches, affirme que les taux d'arsenic des participants étaient égaux ou inférieurs à la moyenne nationale canadienne. Le rapport a analysé des échantillons d'urine et d'ongles de 245 personnes en plus d'examens d'air et de sol. Selon Elliot Sigal, vice-président et toxicologue principal d'Intrinsic, l'alimentation était la principale source d'exposition à l'arsenic des participants et non les émissions de la fonderie Horn. La fonderie contribue à une petite quantité mesurable d'arsenic dans l'air, mais cette contribution demeure très mineure lorsqu'on compare aux sources alimentaires, a indiqué M. Sigal en conférence de presse. Le chercheur a notamment mentionné le riz, les fruits de mer et le poisson comme source potentielle de contamination à cet élément potentiellement cancérigène. Santé Canada spécifie sur son site Web que différentes formes chimiques d'arsenic sont présentes dans les aliments, mais que les concentrations dans les aliments vendus au pays sont faibles et varient peu depuis bon nombre d'années. Les résultats d'Intrinsic contrastent fortement avec des études semblables réalisées sur la population de Rouyn-Noranda. Des études de biosurveillance de la Direction de la santé publique de l'Abitibi-Témiscamingue, réalisées en 2018 et 2019 dans le quartier Notre-Dame, tout juste à côté de la fonderie, avait démontré une présence d'arsenic près de 4 fois plus élevée chez les habitants des environs comparativement à un groupe témoin. En 2022, une étude de l'Institut national de santé publique du Québec, INSPQ, indiquait qu'entre 1 et 14 citoyens de Rouyn-Noranda développeraient un cancer sur un horizon de 70 ans si la concentration d'arsenic dans l'air ne diminuait pas. Remise en question. Consultée par Le Devoir, Maryse Bouchard, professeure titulaire de santé environnementale à l'Institut national de la recherche scientifique, INRS, a apporté plusieurs bémols quant à la méthodologie utilisée par Intrinsic. Je vois un très grand nombre de problèmes avec la façon dont on a mené cette étude. Ce sont tous des problèmes qui tendent à masquer la contribution potentielle des émissions de la fonderie sur l'exposition à l'arsenic de la communauté, a-t-elle exprimé en entrevue. La chercheuse déplore notamment le choix d'utiliser l'urine comme principal biomarqueur plutôt que les ongles. L'urine, précise Mme Bouchard, est plus susceptible de révéler la présence d'arsenic organique, présent dans l'alimentation mais moins toxique, que d'arsenic inorganique, élément cancérigène produit par certains procédés industriels. Les ongles, eux, permettent de mesurer une exposition à long terme à l'arsenic inorganique. Intrinsic a utilisé le biomarqueur le moins sensible à la contribution de la fonderie, puis a conclu que la fonderie ne contribue pas à l'exposition. C'est circulaire comme raisonnement, a souligné la professeure. Maryse Bouchard note également certaines contradictions dans les recommandations d'Intrinsic pour diminuer son exposition à l'arsenic. La firme suggère notamment d'enlever ses chaussures à l'entrée de son domicile et de nettoyer ses planchers régulièrement. Intrinsic affirme d'un côté que l'alimentation explique l'exposition, mais d'un autre, il souligne que l'entrée de poussière extérieure dans la maison augmente significativement la présence d'arsenic. Il ne pose pas la question d'où vient l'arsenic dans la poussière de plancher, a-t-elle indiqué. En activité depuis 1927, la fonderie de cuivre bénéficie d'une permission spéciale de Québec pour émettre davantage d'arsenic que ne le permet la limite provinciale fixée à 3 nanogrammes par mètre cube. Selon les derniers relevés, les émissions d'arsenic de la fonderie Horn ont augmenté en 2025 pour atteindre une moyenne de 40,9 nanogrammes par mètre cube, soit 13,6 fois plus que la norme provinciale. C'était « Le riz exposerait davantage à l'arsenic que la fonderie Horn », selon une étude payée par Glencore. Un texte de Benoît Valois-Nadeau, paru le 9 juin 2026 dans Le Devoir.